Imaginez un instant, une coquille qui se fissure et puis l'apparition d'un petit être duveteux tout juste sorti de l'œuf. C'est une image à la fois toute simple et en même temps, quand on y pense, c'est absolument vertigineux.
Oui, on parle d'une vie qui tient littéralement dans le creux de la main.
C'est ça. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe juste après ce moment un peu magique, en s'appuyant sur un article vraiment très détaillé du site Poulailler Bio. Notre mission, c'est de comprendre comment on accompagne ces tout premiers jours, qui sont si fragiles, surtout dans une optique d'élevage biologique.
C'est un sujet qui est passionnant parce qu'il nous place vraiment à l'intersection de la nature et de la technique. D'un côté, on a un processus biologique millénaire, et de l'autre, une intervention humaine qui, elle, doit être d'une précision quasi chirurgicale pour ne pas...
Pour ne pas tout gâcher.
Exactement. L'enjeu, c'est de recréer les conditions idéales de la nature, mais sans la nature elle-même, ou presque.
C'est exactement ça. Et la première chose qui m'a vraiment marquée dans la source, c'est ce choix de départ. On a l'impression qu'il y a un peu deux philosophies qui s'affrontent. Le 100% nature, avec une mère poule, et le contrôle total avec la technologie. C'est vraiment aussi binaire que ça.
C'est le premier carrefour, en effet. L'article les présente comme la méthode naturelle et la méthode artificielle. D'un côté, on confie les poussins à une poule couveuse qui, en théorie, sait instinctivement tout ce qu'il faut faire.
Voilà la solution de facilité en apparence.
En apparence, oui. Elle chauffe, elle protège, elle éduque. Et d'un point de vue pratique, comme le souligne la source, c'est une économie d'énergie qui n'est pas négligeable du tout.
Facilité apparente, vous dites ? Ça sent un peu le piège. J'imagine qu'il ne suffit pas de mettre une poule et ses poussins dans un coin et puis d'attendre que la magie opère.
Loin de là. Et c'est là qu'on touche à une nuance qui est essentielle. Le terme naturel ne veut pas dire sans aucune intervention. Au contraire.
D'accord.
La source est très claire là-dessus. Pour que cette méthode fonctionne, il faut isoler la mère et ses petits du reste du groupe. Il leur faut un espace dédié, une sorte de maternité privée, à l'abri des intempéries, des autres volailles.
Qui pourrait être agressive, j'imagine.
Tout à fait. On parle d'une boîte d'élevage spécifique, dans un lieu où la température ambiante reste stable, autour de 20-21 degrés.
Donc même en mode nature, il faut créer une sorte de bulle de sécurité. C'est presque un paradoxe.
Je dirais même plus. Le mot-clé de l'article, c'est « assistance ». On ne se contente pas de protéger, on optimise l'environnement pour que l'instinct de la mère puisse s'exprimer au maximum. Le rôle de l'humain ici, c'est de créer un cocon VIP pour que la mère poule fasse son travail dans des conditions parfaites.
On ne la remplace pas, on lui déroule le tapis rouge.
C'est exactement l'idée.
Ok. Alors, la méthode artificielle, elle, semble offrir un contrôle total, ce qui peut être rassurant. Mais en lisant l'article, j'ai eu l'impression qu'il y avait une contrepartie assez lourde. On parle de consommation d'énergie, mais aussi de quelque chose de plus engageant.
C'est un tout autre niveau d'implication. L'éleveuse artificielle, souvent une lampe infrarouge dans une poussinière, remplace la chaleur de la mère. C'est efficace, c'est contrôlable.
Oui.
Mais ça vient avec deux grosses contraintes. La première, c'est l'énergie, bien sûr. Maintenir 34 degrés en continu, ça a un coût. Mais la seconde, et c'est la plus importante, c'est que l'éleveur endosse le rôle complet de la mère.
Ah oui, la machine ne fait que chauffer.
Voilà, elle n'a aucun instinct. Elle ne va pas remarquer le poussin qui est un peu plus faible, celui qui ne mange pas. La surveillance étroite mentionnée dans l'article, ce n'est pas un vain mot. C'est un engagement de tous les instants.
Et on perd aussi toute la dimension éducative de la mère, non? C'est elle qui leur apprend à picorer, à reconnaître les dangers.
Absolument. C'est une dimension que la source n'explore pas en détail, mais qui est implicite. Avec la méthode artificielle, les poussins apprennent en groupe, par imitation entre eux. Avec une mère, il bénéficie d'un apprentissage actif. Le choix n'est donc pas seulement technique, il est aussi comportemental pour l'avenir des animaux.
Cette surveillance nous amène directement au cœur du sujet, la température. Les chiffres donnés dans l'article sont d'une précision redoutable. On commence à 34 degrés Celsius la première semaine, puis on baisse progressivement jusqu'à 22 degrés la sixième. Mais est-ce qu'on ne risque pas de devenir un peu esclave du thermomètre ?
C'est une excellente question. Et c'est là que l'article devient vraiment très utile. Ce calendrier de température, il n'est pas du tout arbitraire. Il imite à la perfection le processus naturel.
Ah, d'accord.
Une mère poule, elle ne reste pas collée à ses poussins de la même façon pendant 6 semaines. Plus ils grandissent, plus leur plumage se développe, plus ils sont capables de réguler leur propre température. Elles s'éloignent donc progressivement. La machine ne fait que mimer cette sagesse naturelle.
Je vois.
Mais vous avez raison, le thermomètre ne dit pas tout. Il peut indiquer 34 degrés au centre, mais sur les bords. Et s'il y a un courant d'air?
Sérac intervient ce fameux langage corporel des poussins dont parle l'article.
Exactement. La source nous donne quatre clés de lecture qui sont bien plus fiables qu'un afficheur digital. C'est la partie art de l'élevage, si on veut. Le premier cas de figure est simple. Tous les poussins sont agglutinés, immobiles, juste sous la lampe.
Là, c'est clair, ils ont froid.
Très froid. Ils luttent pour leur survie. À l'inverse, s'ils fuient la lampe et se collent aux parois, c'est qu'ils sont en surchauffe.
Facile. Mais le troisième camp est plus subtil. S'ils sont tous regroupés dans un seul coin, parfois loin de la chaleur, ça veut dire quoi, Sam?
Ça, c'est le signe classique d'un courant d'air. C'est un ennemi invisible mais mortel pour eux. Il ne fuit pas la chaleur ou le froid en général, mais une zone spécifique d'inconfort. Et ça, aucun thermomètre ne peut vous le dire.
C'est l'observation qui prime.
Toujours. Et puis, il a le quatrième scénario, le but à atteindre. Des poussins dispersés tranquillement dans tout l'espace, qui picorent, qui dorment. C'est le signe d'un confort thermique parfait.
C'est fascinant. Ça transforme l'éleveur en une sorte de détective du comportement, j'imagine. Le stress de mal interpréter les signes au début.
Ah oui, et c'est là que l'expérience joue. Un débutant va peut-être surréagir, alors qu'un éleveur expérimenté saura faire la différence entre un bref frisson et un vrai problème. L'article nous donne la grammaire, mais la fluidité de la conversation avec les animaux, ça ne vient qu'avec la pratique.
C'est une très bonne image. Et l'un des comportements les plus importants, c'est bien sûr la nourriture. D'ailleurs, la source commence par une affirmation qui m'a totalement surprise. On nous dit qu'ils n'ont pas besoin de manger pendant 40 à 60 heures après la naissance. Ça paraît complètement fou.
Ça l'est si on pense avec notre logique de mammifère. Mais pour un oiseau, c'est une adaptation biologique absolument géniale. Juste avant d'éclore, le poussin absorbe le reste du vitellus, le jaune de l'œuf, dans son abdomen.
Une sorte de lunchbox intégré, en fait.
C'est exactement ça. C'est une réserve de nutriments très riche qui lui permet de survivre et d'avoir l'énergie de s'adapter à son nouvel environnement sans avoir à chercher de la nourriture tout de suite.
D'accord. Mais une fois que ce stock est épuisé, on passe aux choses sérieuses. Et l'article propose une pâtée de démarrage pour la première semaine. La recette est d'une simplicité. Jaune d'œuf dur, biscotte écrasée, lait en poudre bio. C'est tout.
C'est simple, mais chaque ingrédient a sa raison d'être. Le jaune d'œuf fournit des protéines et des graisses de haute qualité. Les biscottes, c'est pour l'énergie. Le lait en poudre complète. Et le détail crucial, c'est la texture friable. Pas une bouillie. Il faut qu'ils puissent picorer de petits morceaux, ça stimule leur comportement naturel.
D'accord, ça c'est pour le démarrage. Mais après, la recette se corse sérieusement. On passe à une formule de croissance avec des pourcentages très précis. 35% de farine de maïs, 20% d'orge et deux ingrédients qui m'ont interpellé. 5% de viande et quelques gouttes d'huile de foie de morue. De la viande pour des poussins?
Et c'est là qu'on voit toute la profondeur de l'approche bio décrite. La viande, non grasse, bouillie et hachée, vient nous rappeler une vérité fondamentale. Les poules sont omnivores.
Ah oui, c'est vrai.
Dans la nature, une mère leur apprendrait à trouver des vers, des insectes. Cet apport de 5% de viande ne fait que combler ce manque crucial de protéines animales qui est essentiel pour une bonne croissance.
Et l'huile de foie de morue alors, c'est la cerise sur le gâteau?
C'est bien plus que ça. C'est l'illustration parfaite de la philosophie de la prévention en élevage bio. C'est une bombe de vitamines A et D. La D est cruciale pour le squelette, la A pour le système immunitaire. Plutôt que d'attendre une maladie pour traiter, on construit la robustesse de l'animal dès le départ.
On ne se contente pas d'éviter les antibiotiques, on fait en sorte qu'il n'en ait pas besoin.
C'est ça. On est dans une véritable construction de la santé.
Vu comme ça, c'est limpide. Bon, maintenant, on a des poussins bien au chaud, bien nourris. Il reste à leur construire une maison digne de ce nom. Et là aussi, j'imagine que les détails sont cruciaux.
C'est le triptyque essentiel. Chaleur, nourriture, environnement. Un seul pilier qui flanche et tout s'écroule. Pour l'environnement, le premier principe, c'est l'adaptation à leur taille. La source insiste beaucoup sur l'utilisation de petits matériels. Ça peut sembler évident, mais c'est un point de vigilance constant.
L'article donne l'exemple des mangeoires et des abreuvoirs. Pourquoi c'est si important d'avoir des modèles spéciaux poussins? On pourrait se dire qu'un simple bol ferait l'affaire pour l'eau, non?
Ce serait une grave erreur. Un bol d'eau, c'est un danger multiple. Premièrement, le risque de noyade est réel pour un poussin de quelques jours.
Ah oui, bien sûr.
Deuxièmement, ils peuvent s'y mouiller, ce qui peut provoquer une hypothermie foudroyante. Et troisièmement, Ils vont y mettre leurs pâtes, leurs déjections, et transformer l'eau en un bouillon de culture en quelques heures.
D'accord, je vois.
C'est pour ça que l'article préconise des abreuvoirs siphoïdes, qui maintiennent un petit niveau d'eau constant et propre, inaccessible aux souillures. C'est la même logique pour les mangeoires.
Tout est pensé pour l'hygiène, en fait. Et ça s'applique aussi à la litière, j'imagine.
C'est le fondement de la santé du groupe. Une bonne litière, comme des copeaux de bois, doit être absorbante, isolante et surtout rester sèche. Elle doit donc être changée très très régulièrement. Un environnement humide et souillé, c'est la porte ouverte aux maladies, aux parasites.
D'accord.
La surveillance sanitaire attentive, dont parle l'article, c'est avant tout de s'assurer que leur lieu de vie est impeccable.
Et on en revient à cet équilibre subtil. La source mentionne un dernier point qui me semble être un vrai défi technique. Assurer une bonne aération, mais sans courant d'air. Comment est-ce seulement possible?
C'est le casse-tête de tout éleveur. Il faut un renouvellement de l'air pour évacuer l'humidité, les gaz. Mais le moindre filet d'air froid direct sur les poussins peut étirer. La solution, c'est la conception de la poussinière. L'aération doit être indirecte, en hauteur, pour que l'air frais se mélange à l'air chaud avant de descendre.
Et là encore, ce sont les poussins qui nous disent si ça fonctionne.
Toujours. S'ils évitent une zone, même si le thermométrie est bon, c'est qu'il y a un problème. C'est un dialogue permanent.
Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point tous ces éléments sont interconnectés. Une mauvaise aération rend la litière humide, ce qui favorise les maladies, ce qui affaiblit les poussins qui deviennent plus sensibles au froid. C'est un véritable château de cartes.
La gestion d'un système dynamique est très fragile.
Chaque détail a des répercussions sur l'ensemble.
En résumé, ce qu'on retient de cette analyse, c'est que l'élevage bio de poussins, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est une philosophie qui commence par un choix fondamental entre l'instinct maternel assisté et une prise en charge technologique totale.
Oui, avec tout ce que ça implique en termes d'engagement. Ensuite, c'est l'art de maîtriser une température qui n'est pas qu'un chiffre, mais qui se lie dans le comportement même des animaux.
Et une science de la nutrition, où chaque ingrédient, de la viande à l'huile de foie de morue, est pensé pour construire une santé robuste de l'intérieur.
Le tout dans un environnement où l'hygiène et la conception sont quasi obsessionnels, pour anticiper le moindre risque.
Au final, ce que cette source démontre, c'est que l'élevage bio est un exercice d'humilité.
C'est exactement ça. Il s'agit de comprendre les mécanismes incroyablement complexes de la nature pour tenter de les recréer. Et ça demande une attention, une rigueur et une connaissance profonde du vivant qui vont bien au-delà de la simple application d'un mode d'emploi. On ne s'improvise pas à mère poule.
C'est une conclusion très juste. Mais en relisant la source, un détail m'a frappé. Le texte s'inscrit dans le décor d'une petite ferme bio. On devine en arrière-plan des chèvres, un âne, un potager. L'élevage des poussins n'est pas présenté comme une activité isolée.
C'est vrai, il y a une vision d'ensemble qui est esquissée, un écosystème.
Et ça soulève une dernière question, une réflexion pour aller plus loin. On a décortiqué une méthode d'élevage qui semble techniquement parfaite. Mais peut-on la considérer comme pleinement biologique si elle est déconnectée de cet écosystème global ? La véritable essence du bio ne réside-t-elle pas justement dans l'interaction, dans les synergies entre les animaux, les cultures, le sol ? Cette source nous donne les clés d'une pièce de la ferme, mais elle nous invite peut-être à nous demander comment cette pièce s'intègre dans le puzzle beaucoup plus vaste d'un organisme agricole vivant et cohérent.